Espace 2, Louis-Philippe Ruffy.
Entre les lignes, avec le samedi culturel, l'hebdomadaire littéraire du temps.
Bonjour à tous. Ce samedi, on connaîtra le lauréat du prix des auditeurs 2004. Je vous propose donc de faire le point sur les 6 livres encore en course. Chaque année, vous le savez peut-être, un jury de 25 auditeurs aussi représentatifs que possible se réunit ici à la Maison de la Sala pour choisir le livre qu'il a préféré. Ce prix des auditeurs de la Radio Suisse Romande récompense toujours un récit ou un recueil de nouvelles écrit par un auteur suisse et publié au cours de l'année écoulée, en l'occurrence durant 2003. C'est sous la présidence de Patrick Ferlat que les débats, que les délibérations auront lieu. Patrick Ferlat qui en assume maintenant la conduite depuis 2 ans après le beau et long mandat de Jacques Beaufort. On passe au premier livre en lice dans ce prix des auditeurs, le récit de Claude Inga Barbet. Il s'intitule « Le palais de sucre ». Il paraît aux éditions D'autre part. Le récit évoque l'enfance et la jeunesse de Kay. Kay, une jeune fille qui est doublement marquée au fer rouge dans son corps, puisqu'elle était victime d'un inceste et que sa mère l'a abandonnée. À cette double douleur correspond dans le livre un double séjour en milieu psychiatrique, espacé de plusieurs années, où le personnage croit chaque fois avoir retrouvé l'équilibre. Or, il n'en est rien. Et Claude Inga Barbet excelle à décrire à la fois l'incertitude et les espoirs de rémission qui traversent l'esprit d'un patient en milieu psychiatrique. Extrait.
Au bout du couloir, à la limite du service psychiatrique, il y a un aquarium. Un bel aquarium rectangulaire où nagent toutes sortes de minuscules poissons bleus ou rouges. J'ai promis à Linda de la rejoindre, mais je n'ai pas faim. Je me sens juste faible et triste. Je n'ai rien pris à lire, on me l'a fortement déconseillé. Mais ce sentiment de vacuité est terrible. Alors je me laisse tomber dans un fauteuil et regarde les poissons. C'était la simple histoire d'un poisson rouge dans un bocal rond. L'histoire d'un petit garçon triste qui avait gagné un poisson à une fête de village, puis l'avait ramené chez lui dans un petit sachet rempli d'eau. Le poisson, reconnaissant, jour après jour, avait rendu sa joie à l'enfant qui n'avait plus de maman. On ne disait à aucun moment de quoi la maman était morte, mais on parlait du plaisir simple du garçon. On en parlait si bien que ce plaisir était palpable pour moi. Je pouvais le sentir circuler dans tout mon corps en écoutant le disque. J'avais la sensation que le bonheur était presque à ma portée. Le garçon avait posé le bocal sur le rebord de la fenêtre pour que le poisson ait toujours de la lumière, pour qu'il puisse attendre le soir en regardant descendre le soleil sur les toits de la petite ville de province. Le poisson passait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le matin, ses écailles étaient bleutées, rouge-orangées à midi et dorées depuis l'heure du thé jusqu'au soir. Dorées à tel point que l'eau du bocal scintillait de paillettes d'or. Et la musique qui passait derrière la voix était si cristalline, si gaie, qu'on ne doutait pas un instant que le poisson fût heureux d'appartenir au petit garçon. J'avais une idée précise du bonheur que ce devait être d'appartenir à quelqu'un. Il n'y aurait plus de passé et plus d'avenir non plus. Juste le moment présent. Claude Inga Barbet, Le palais de sucre.
Sens du détail, fluidité et martèlement de la phrase, Claude Inga Barbet fait preuve d'une grande maîtrise dans ce texte. Il faut dire que l'acidité de la mélancolie, elle s'y était déjà frottée dans un ouvrage antérieur. On se souvient en effet de ses chroniques vives et douloureuses parues il y a 3 ans sous le titre « Petite dépression centrée sur le jardin ». C'était là aussi aux éditions D'autre part. Après Claude Inga Barbet et Le Palais de Sucre, place à Jean-Michel Olivier qui publie L'Enfant Secret. L'ouvrage paraît à l'âge d'homme, c'est le 2e livre en lice dans ce prix des auditeurs 2004 de la Radio Suisse Romande. « L'image qui convient peut-être le mieux pour entrer dans ce récit, c'est celle de deux rivières qui un jour ont mélangé leurs eaux pour ne former qu'un seul tracé. L'une prend sa source sur les hauteurs de la côte, à Aisin très précisément. L'autre naît à Trieste, sur les bords de la mer Adriatique. Un roman généalogique, oui, mais où Jean-Michel Olivier s'est amusé à introduire des parts d'imaginaire. C'est l'histoire de ses grands-parents dont on serait issu, qui est aussi celle que l'écrivain se plaît à engendrer, à réécrire, comme le ferait justement un enfant secret, cet enfant retranché dans l'ombre de l'arbre généalogique. D'un côté donc, la côte vaudoise, durant les années 20. Julien et sa femme Émilie tiennent avec succès une auberge à Aisin, où on peut manger les fameux Malakoff, jusqu'au jour où leur fille meurt. Avec leurs deux autres fils, ils décident finalement de quitter l'endroit pour gagner la ville. De l'autre côté, Trieste, toujours dans les années 20. Antonio et Nora y mènent une existence au contact des intellectuels, dont Joyce. Joyce, qu'Antonio connaît bien, jusqu'au jour où Mussolini le sollicitera, le happera, lui et sa femme, pour être son photographe attitré. C'est qu'à ce moment-là, la guerre est documentée. Elle a besoin d'images inspirées par la complainte du partisan, ou encore par Bella Ciao, autant de symboles visuels du pouvoir fasciste en train de naître en Italie. C'est finalement par leurs enfants, Pierre et Livia, qu'Antonio et Nora croiseront la famille vaudoise de Julien, le tout sur fond de voyage à l'extérieur pour le compte du Duce. Alors, au-delà du côté miraculeux de cette rencontre entre les deux familles, Jean-Michel Olivier s'interroge en permanence sur le pouvoir des images. Julien, en effet, le vaudois, fait des photos qui sont floues parce qu'il est frappé de cécité, il est quasiment aveugle. De son côté, Antonio, le tridentin, prend des clichés du Duce et d'une limpidité telle qu'elle trahit derrière une mise en scène. Où situer l'écriture entre ces deux pôles? Le livre débute d'ailleurs sur une scène qui a valeur d'image originelle. Extrait.
C'est au début du siècle, dans la cour d'une ferme. L'image est encore floue. Un enfant joue au ballon. Il s'appelle Julien. Il a 8 ans, 9 ans peut-être. Il court au milieu des lapins, des oies, des poules, tandis que son père, manches retroussées, coupe du bois. Il fait chaud, c'est l'automne. L'homme s'éponge le front, puis reprend son travail, infatigablement, pendant que l'enfant gambade autour de lui. Soudain, le ballon rebondit sur le billot et le gamin se précipite pour l'attraper. Il ne voit pas son père qui fend le bois. Il ne voit pas la hache qui tombe comme un éclair. Il ne voit pas le ciel qui s'ouvre brusquement. L'homme non plus n'a rien vu. Ou plutôt, il a vu l'enfant qui surgissait, mais trop tard, la hache était déjà partie. Elle a frappé l'enfant derrière la tête et le sang a giclé. Tout de suite, le père s'en est pris à l'enfant. Mais quand il a vu qu'il pleurait et le sang qui coulait de sa tête, il s'est calmé, le juge de paix de la côte vaudoise. À la mère qui criait, il a dit que ce n'était qu'une éraflure et que l'enfant n'avait pas à jouer dans ses jambes, que ça lui apprendrait. La mère a nettoyé le sang, il y en avait partout, sur le visage, sur les mains, les habits. Quand elle eut fini, l'enfant s'est arrêté de pleurer, miraculeusement, comme s'il était guéri. Alors la mère s'est dit que l'homme avait raison, comme toujours. On a enveloppé la tête de l'enfant dans une serviette bien serrée pour arrêter l'hémorragie. C'est la première image de mon histoire, un sacrifice à la campagne. Jean-Michel Olivier, L'enfant secret.
Troisième livre en lice dans le prix des auditeurs de cette année, le recueil de prose d'Annelise Grobetti, Amour mode majeur. Il paraît aux éditions Bernard Campiche. Annelise Grobetti signe là une série de variations sur les stratégies de l'amour, de la séduction à la rupture. Mais plutôt qu'un traité, comme l'aurait fait un auteur du XVIIe ou du XVIIIe siècle, elle se pique au jeu d'un exercice de style tout en nuances, pour dire en 13 tableaux, en 13 scénettes, les différentes phases affectives que peuvent traverser l'homme et la femme dans la relation amoureuse. Elle, la femme, elle passe tantôt de la muse un peu distraite, un peu naïve, à la partenaire jalouse, prête à se faire justice, ou encore à celle qui triomphe en refusant l'invitation pressante et lubrique que lui fait ce mâle, un mâle prêt à la prendre sur le champ. Lui, l'homme, est souvent dépeint en chevalier érotique, précédé, emporté, débordé par l'impulsivité de son désir, quand il n'est pas réduit à l'impuissance d'un vieux sur son lit d'hôpital, en train de lorgner et fantasmer sur la poitrine de l'infirmière qui finit par le remettre à sa place. Bref, une variété de registres qui oscille du comique au plus grave, du volatile au sobre en passant par le sombre, pour reprendre les termes employés par Anis Grobetti. Ici, un extrait tiré du registre volubile.
Quand il sera allongé dans l'herbe, comptant fleurette à sa pouette amie, je me glisserai sous le revers de son pantalon, entamerai rude montée afin de gagner terre plus sensible ou mieux mesurer sa passion. Craque Isaac, manchotte pour l'éternité, sous forme de fourmi, sans doute sotte destinée. Pourquoi pas par les airs, en rase-motte de son oreille, pour lui fredonner le message d'une miellée à deux ailes de moi? Aïe! En entendant mon bourdonnement, il risque de tourner la tête avec tant d'emportement que je serai prise dans les raies de ses boucles de jet. Aiguillon toute! Que croyez-vous qu'il arrivera? Ne sera pas lui qui crèvera. Alors qu'il s'apprêtera à se déclarer à cette gourgandine, profitant du léger écartement de ses dents, moucheron kamikaze lui volerait dans la glotte, provoquant au plus mauvais moment piètre caricature d'un étouffement. Bouillon plutôt amer à boire et noyade obligatoire. De nuit, l'approche paraît plus sûre, tandis qu'il soupirera d'aise auprès de sa promise. Frêle vampire, je conclurai avec lui pacte de sang à son insu. Attention à ne pas s'agiter au point que sa chérie refuse de partager sa couche avec ce volatile. Il mettrait un point d'honneur à ne se recoucher qu'après m'avoir réduite en idéogramme chinois contre la paroi. Bon. Je pense que je m'en vais renoncer à toute relation de proximité avec ce mâle insecticide. Tu m'écoutes ? Anne-Lise Grobetti, Amour mode majeur.
Amour mode majeur, le recueil de prose d'Anne-Lise Grobetti fait entendre plusieurs voix de femmes chez la femme, comme elle l'a fait si bien dans ses textes précédents. Mais ici, les voix féminines sont saisies dans l'épaisseur trouble de la séduction, où l'on ne sait plus qui agit sur qui. Quatrième livre retenu pour ce prix des auditeurs 2004, le roman de Hans-Jörg Schertenleib, intitulé « Les 100 noms ». Il a été traduit de l'allemand par Marie-Claude Auger et apparu aux éditions Jacqueline Chambon à Nîmes. Hans-Jörg Schertenleib est un écrivain zurichois qui vit actuellement en Irlande. Il est l'auteur de pièces de théâtre jouées en Allemagne et en Suisse. Il est aussi l'auteur de romans qui ont connu un immense succès chez les lecteurs germanophones. Que racontent les 100 noms ? Le livre est en fait une descente aux enfers dans les milieux d'une secte satanique à caractère religieux, où les membres sont tantôt des victimes, tantôt des bourreaux. Cet univers implacable, il nous est décrit par une journaliste allemande, elle s'appelle Christa Notter, elle est le personnage principal et la narratrice de ce roman. Alors si cette femme se fait prendre au piège de la secte, c'est parce qu'elle est d'abord tombée dans le piège de la société où elle a grandi et contre laquelle elle désirait se venger, un milieu catholique étouffant où on l'a violée et où on abusait d'elle. Pas étonnant dès lors qu'elle cède aux promesses de la communauté sectaire qui lui fait miroiter la possibilité d'une vengeance. Le mécanisme est bien connu, mais ici il prend une dimension particulièrement forte puisque la narratrice décrit minutieusement toutes les étapes de ce glissement dans la psychose collective. Cette description, elle l'a fait sous la forme d'un journal, un journal qui rythme le récit et y introduit des moments d'arrêt, des moments de pause descriptive très efficaces comme autant de faux répit pour le personnage. Car il faut savoir que cette femme est condamnée à mort par sa secte. Elle tient donc un journal se sachant perdue. Si elle le fait, c'est à l'attention de sa fille, à qui elle décide de raconter sa vie avec l'espoir que celle-ci la lira un jour. Extrait.
Le 20e jour. Aujourd'hui, tout le monde s'y connaît en matière de destinée, de vocation, de magie. La directrice se penche sur ma main sans la toucher. Ses jambes nues sont sales et pleines d'égratignures. Elle sent la sueur et la fumée de cigarettes. On ne s'aperçoit qu'elle est désespérée que lorsqu'on est près d'elle. je décide de compter jusqu'à 50 et de me soumettre à ses prédictions. J'ai remarqué qu'elle parle souvent toute seule en faisant des gestes pathétiques. Elle a le regard d'une race qui a régné jadis et qui est désormais menacée d'extinction. Ni la pitié ni le dégoût n'excusent quoi que ce soit. Finalement, la directrice doit quand même toucher ma main. Elle la pose délicatement dans la paume de sa main gauche, puis elle suit les lignes et les sillons avec son index droit. « Tu as un fils ?» demande la directrice. « Non, » dis-je, en fixant ses cheveux sales. « Un frère jumeau ?» Je secoue la tête. Je sens des picotements dans les mains. Mes doigts, en revanche, sont comme vidés de leur substance, sans force, comme les doigts d'un gant. Nous sommes en vie et cependant en train de mourir. Hans-Jörg Schertenleib, Les Sans Noms.
Le roman de Hans-Jörg Schertenleib est un véritable thriller où la finesse des descriptions psychologiques alterne avec un réalisme froid, presque documentaire, qui accentue l'emprise sournoise que peut exercer une secte sur l'individu. Cinquième livre en lice dans ce prix des auditeurs 2004 de la Radio Suisse Romande, le roman de Paolo Di Stefano, « Baiser à ne pas renouveler », qui paraît chez Metropolis. Un roman traduit de l'italien par Daniel Colomar. L'auteur est d'origine sicilienne. Il est immigré au Tessin dans les années 60 et vit en ce moment à Milan où il travaille comme journaliste au Corriere della Sera. Autant dire qu'il a connu plusieurs Italies, une existence en transit à l'intérieur de la culture italienne que l'on retrouve justement au cœur de son roman. Baiser à ne pas renouveler raconte la vie et la mort d'un couple où chacun d'eux est issu d'un de ces pôles de l'Italie. Elle est tessinoise, lui est sicilien. Lui a quitté sa Sicile natale en son temps pour rejoindre celle qui deviendrait sa femme. Bien des années après, c'est elle qui part. Elle finit par fuir le Tessin où ils ont vécu ensemble, où leur amour s'est épuisé, s'est usé. Entre deux, leur enfant est mort. On a là un terrible huis clos familial servi par une construction romanesque très subtile, puisque ce récit mêle deux voix. D'abord celle de l'immigré sicilien qui recompose sa vie et écoute sa femme dans la chambre voisine, sa femme qui a ressurgi après des années d'absence. La seconde voix, c'est celle de sa femme précisément, cette femme presque inaudible qui évoque sa déroute, sa fuite loin du Tessin, loin de celui qu'elle n'aime plus. Et entre ces deux voix viennent se glisser à intervalles réguliers des extraits de lettres que le fils a envoyées à ses parents restés au pays et qui se voulaient rassurantes. Mais l'homme finira quand même par relier le Tessin et la Sicile, puisque une année après la mort de son fils, qu'on a inhumé en Suisse, il décidera de l'enterrer définitivement dans son pays d'origine, la Sicile. Extrait.
Ce fut un voyage différent des autres. Maintenant, il m'est difficile de me rappeler si, pendant la nuit, sur l'autoroute, seul avec le cercueil, j'ai parlé avec lui, si j'ai prié, malgré mon aversion pour les prières, si j'ai écouté la radio en sifflotant, ou bien si, comme cela me semble plus probable, j'ai pensé en silence, habitué pendant des années à parcourir cette route joyeusement, avec de la musique à la radio et des chansons entonnées avec la joie de revoir la mer. C'est « j'ai envie de faire pipi » qui m'obligeait à arrêter la voiture sur la voie d'arrêt d'urgence. Ses sandwichs mangés à toute vitesse. Lui, ses sandwichs, il les avait déjà avalés et il avait fait tout son pipi lors des quelques voyages précédents. Moi, ce voyage, je l'ai fait d'une traite, comme on boit une boisson amère. Je n'ai même pas eu peur de mourir, comme cela arrive quand on entreprend de longs voyages, parce que la mort était là, étendue sur le siège arrière, dans le cercueil de zinc. Je pouvais la voir dans le rétroviseur et je l'entendais peut-être cogner dans les tournants. Pourquoi ai-je voulu l'emmener, ce petit corps, contre la volonté de ma femme? Pourquoi l'éloigner de la colline qui, d'en haut, l'a vu grandir et mourir? Trouver une sépulture dans sa terre. Tant de fois j'ai entendu prononcer ce souhait par mon père quand je lui ai demandé de venir habiter chez nous, en Suisse. Je préfère mourir chez moi. Paolo Di Stefano, baiser à ne pas renouveler.
Sixième et dernier livre engagé dans le prix des auditeurs de cette année, le roman de Michel Laya, Les larmes de ma mère, qui est paru chez Zoé. Les larmes de ma mère constituent le septième roman de Michel Laya après Les légataires. Les légataires qui dépeignaient une famille disloquée où chacun de ses membres, le père, le fils, la fille, la mère, monologuait à partir de quatre endroits du globe différents. Ce thème de la famille impossible, et plus largement de la transmission impossible, on le retrouve en partie dans Les larmes de ma mère, où un fils cadet, le troisième de la famille, évoque la relation complexe et douloureuse qu'il a eue avec sa mère, et pour cause, elle attendait une fille. Mais au lieu d'évoquer explicitement la frustration de cette mère et les ravages qu'elle peut générer chez le fils indésirable, Michel Laya construit un récit tout en nuances de ce terrible malentendu, puisque ce sont les objets familiers et familiaux qui vont parler. Ce sont ces objets qui vont suggérer le drame via l'usage souvent contradictoire qu'en a eu la mère, le père ou le fils. Bien des années après, à l'occasion d'un déménagement, en effet, ce fils se souvient de sa petite voiture mécanique, de deux fléchettes, d'une statue ou encore d'orchidées artificielles qui trônaient dans l'appartement familial. En somme, chacun de ces objets finit par livrer, avec le souvenir, la force symbolique presque réconfortante que lui attribuait le fils et en même temps la nature contrariante, quasiment inquiétante, que leur prêtait la mère. Extrait.
Le couteau à viande. Le soir, à table, tous réunis pour manger les repas équilibrés que préparait ma mère, était le moment où cette mue s'avérait douloureuse. Pas tellement en raison des sourires que personne ne retenait dès que ma voix, comme une pièce qui lâche, un câble qui casse, me trahissait. Sourire auquel je prenais part de bon cœur, mais à cause de cet instant imprévisible où ma mère, redevenue grave, la lèvre supérieure à peine palpitante, les ailes du nez plus creuses que d'ordinaire, elles aussi à peine palpitantes, se tournaient vers mon père. Et d'une voix sans appel, d'une voix qui accule, qui administre les mots comme des coups de batte, ma mère disait « Arrange-toi, chérie, pour qu'il se taise. » Et je me taisais. Brisé par la honte et la haine, mais les yeux rivés sur la lame de mon couteau, je me taisais en poussant pour la première fois des cris muets de rage et de vengeance. Puis les cris dans ma tête diminuaient, disparaissaient au fur et à mesure que la lame du couteau grossissait, prenait toute la place, débarrassait ma souffrance. Dans la chape de silence qui me capitonnait, je n'entendais plus qu'une coupure lisse, sans heurts, infaillible. Michel Laya, Les larmes de ma mère.
On récapitule, si vous le voulez bien, les six livres dans la course pour ce prix des auditeurs de la Radio Suisse Romande 2004. De Claude Inga Barbet, Le pain de sucre, c'était aux éditions D'autre part. De Jean-Michel Olivier, L'enfant secret, c'est à l'âge d'homme. Anne-Lise Grobetti signe Amour mode majeur chez Bernard Campiche. De Hans-Jörg Schertenleib, Les sans noms, aux éditions Jacqueline Chambon. De Paolo Di Stefano, Baiser à ne pas renouveler, c'est chez Métropolis. Et enfin, Michel Laya signe Les larmes de ma mère, c'est aux éditions Zoé. Les références exactes figurent sur notre site, au cas où, espace2/entre-les-lignes, où vous pouvez réécouter ce qui s'est dit aujourd'hui. À signaler que le lauréat du prix des auditeurs 2004 sera connu en début de semaine prochaine et que la remise officielle aura lieu fin avril au Salon du Livre de Genève. Thank you.
Entre les lignes, production de Louis-Philippe Ruffy, on se donne rendez-vous lundi à 11h ou à 19h en nouvelle diffusion. Nous serons en compagnie du romancier français Patrick Lapeyre, qui publie chez POL un récit tout en nuances sur les avatars d'un inceste non consommé entre le frère et sa sœur. Et surtout, il décrit les attentes démesurées qu'il peut provoquer chez le frère qui croit à l'amour. Ne manquez donc pas ce rendez-vous. Autre rendez-vous à ne pas manquer, celui des Forts en Thème, l'émission de Martine Béguin qui nous emmènera demain à l'île Maurice. C'est un reportage de Jacques Mourican dans une réalisation de Jean-Philippe Zvalen. L'émission touche presque à son terme, le temps pour nous d'écouter un dernier poème de Jessica De Bernardini, lu par son auteur. Elle était notre plume d'adolescent tous les jours de cette semaine en fin d'émission.
Nougat, cannelle, elle est si belle, avec son sourire blanc, son visage rayonnant. Carré, bossu, lui est tout gris. Audace amoureuse, parade langoureuse. Elle si frêle, si femme, lui si froid, si coriace. Quel couple, positif, négatif. La logique en a fait une union mathématique.
Parole intérieure, parole lâchée au micro, Jessica De Bernardini osait là l'exercice difficile de la lecture au micro. Elle nous lisait un de ses poèmes. Lundi, nous retrouverons une autre plume d'ado, une autre voix de gymnasien. L'occasion de vous rappeler que le concours international Jeunes auteurs de cette année a pour thème la poésie et qu'il est ouvert aux 15-20 ans. Le délai pour envoyer votre texte aux éditions de l'EB à Grolès, dans le canton de Fribourg, court jusqu'au 7 mai 2004.
Entre les lignes, avec le samedi culturel, l'hebdomadaire littéraire du temps.
Merci à Delphine Horst et à Gilles Pidou pour la lecture des textes, à Bruno Seriba qui a réalisé l'émission d'aujourd'hui et à Sébastien Maire qui m'a aidé à la préparer. Tout de suite, vous retrouvez Méridienne.